Ce matin, j'ai vraiment à cœur de parler sur un verset qui, je pense, résume pas mal de choses, de pas mal d'enseignements de la Bible, si ce n'est, ce serait un peu de dire toute la Bible, mais beaucoup, beaucoup. Et est-ce que vous avez une idée? Un verset, je vais vous aider, qui résume toute la loi et les prophètes. Vous avez peut-être une idée. C'est dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. Deutéronome 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras... ça commence déjà. Okay, tranquille. Okay. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Merci Seigneur pour ta parole.
Amen.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui nous donnes de t'aimer.
Amen, Seigneur.
Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle.
Amen.
Merci parce que ton fardeau, il n'est pas lourd, il est léger, Seigneur.
Amen.
Merci parce que tu ne nous demandes rien qu'on ne puisse pas accomplir par ta grâce. Seigneur, je te prie que tu parles à nos cœurs ce matin, que tu viennes prendre toute la place, Seigneur, que tu prennes nos âmes, nos cœurs, nos forces et nos pensées. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant et il n'y a rien qui peut te résister. Sois glorifié.
Amen.
L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste est vanité. Et c'est sur cette parole que se base la demande de Dieu de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre à part notre Dieu. Les autres religions, les autres, chacun son Dieu, ça n'a jamais été une option dans la Bible. Ça n'a jamais été, je suis le Dieu d'Israël, mais il y a le Dieu de machin, et on va voir qui est plus fort, il n'y en a qu'un. Donc la tolérance de chacun, son petit Dieu, ça n'a jamais été une option non plus, même si c'est un peu la mode en ce moment, dans notre société. Après, pas de tolérance, ça ne veut pas dire pas d'amour. Attention, on doit aimer nos prochains, et nos voisins, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais... Il n'y a qu'un seul Dieu, et ça c'est une vérité. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a personne d'autre à adorer non plus. S'il n'y en a qu'un seul qui doit recevoir l'adoration. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force, parce qu'il est le seul qui puisse recevoir nos vies, notre amour. C'est comme si nos vies étaient un verre d'eau, et rempli d'eau. Et Dieu, c'est le seul bol, c'est le seul réservoir qui peut recevoir l'eau. Si on verse autre part, ça va perdre, on va perdre notre vie. En fait, on a un verre rempli d'eau, c'est notre vie, c'est notre amour, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Quand on adore quelque chose, quand on aime quelque chose, on verse en fait de notre vie, on donne de notre cœur. Et Dieu, c'est le seul qui peut recevoir. C'est le seul qui peut recevoir nos vies. Et on peut dire, oui, mais alors moi j'ai un verre d'eau, mais je vais pas le donner en fait. Sinon je peux rester tranquille et j'ai pas aimé Dieu et je vais garder ma vie. Mais on est fait d'une telle façon qu'on ne peut pas ne pas donner nos vies. C'est comme si ça s'écoule forcément. Et quand on vit, quand on aime, quand on se lève le matin, on se lève toujours pour quelque chose. Et donc forcément la vie qu'on a à l'intérieur de nous, elle va aller dans quelque chose. Même ceux qui disent, moi je... J'ai renoncé à l'amour, j'ai renoncé à vivre pour quelque chose, je vis pour rien, et je garde ma vie pour moi, je suis égoïste. Bah, soit ils vivent pour eux-mêmes, donc en fait ils se versent le verre d'eau, enfin, bah, ils se perdent eux-mêmes, soit soit ils adorent, enfin ils vivent pour l'idée de vivre pour rien, vous voyez ou pas. Ils essaient de démontrer par leur vie, je sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça, moi j'ai une amie qui est athée et qui est comme ça, on me dirait, on va vous faire croire qu'elle vit pour rien, mais en fait elle vit pour prouver qu'elle a pas besoin de Dieu. Et c'est ça son idole. C'est dans ça qu'elle verse sa vie tous les jours, c'est de dire, non, aujourd'hui je vais montrer que je peux réussir ma vie sans Dieu, je peux réussir ma vie sans rien du tout, et c'est ça son idéal, et c'est ça son Dieu. Et chacun d'entre nous, on a un Dieu, qu'on le veuille ou non, on vit pour quelque chose, on aime quelque chose de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et c'est ça qu'il faut trouver, et c'est ça qu'il faut dénoncer et remettre Dieu à sa place, en fait. Et j'ai un petit témoignage à partager aussi. Moi, quand je suis revenue à Dieu adolescente, j'étais vraiment à fond avec Dieu, enfin... Ça a tout de suite été, quand j'ai connu Dieu, quand je suis revenue à Dieu, ça a tout de suite été tout pour moi. Peu de temps après mon baptême, j'étais à l'école biblique et je voulais vraiment faire de Dieu toute ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, au début, je donnais ma vie pour Dieu, vraiment Dieu, sa personne et tout. Mais petit à petit, on fait vite le je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la... On commence vite à vivre pour un idéal qu'on a de notre vie avec Dieu. Au lieu de vivre pour Dieu, on dit « Ah, mais en fait, moi j'aime Dieu, donc je vais être comme ci, comme ci, comme ça, donc je veux me marier, que mon mari soit comme ci, comme ça, je veux que ma vie elle soit vraiment bénie, je veux que mes temps de prière ils soient comme ça, comme ça. » Et en fait, notre idole, c'est plus Dieu, c'est la personne qu'on adore, c'est plus Dieu, mais c'est... ma vie avec Dieu qui va être bénie et je vais prêcher et 5000 personnes vont se convertir et tout. Et en fait, après, on vit pour ça. On vit pour mon ministère, mon couple, mon travail avec Dieu. Et en fait, l'amour de Dieu, ça devient une base, en fait, sur laquelle on est établi. Donc, j'aime Dieu. Mais parce que j'aime Dieu, je vais vivre pour avoir un grand ministère dans les finances. J'aime Dieu, mais parce que j'aime Dieu, je vais donner tout mon temps, toute ma vie pour l'école du dimanche. J'aime Dieu et je vais faire X pour être Y, pour que Dieu soit content de moi, pour que Dieu il soit fier, pour que Dieu... Nanana. Et en fait, quand on commence à faire ça, notre vie, elle commence à se déverser dans quelque chose de vain, en fait. Un peu. Et petit à petit, comme on aime Dieu toujours, on verse un peu en Dieu, mais quand même, mon objectif, mon but, mon idéal, ce à quoi j'aspire, c'est pas juste aimer Dieu. Aimer Dieu, oui, c'est bon, ça, je sais. Je dis, oui, mais il faut que tu aimes Dieu. Oui, non, mais c'est bon, j'aime Dieu, je sais. Ça y est, je le sais. Maintenant, il faut que je fasse ci, maintenant, il faut que je fasse ça. Enfin, c'est bon, il y a plein de gens qui meurent. Tout le monde, on doit évangéliser. Non. C'est bon, ça, je sais. Ça, aimer Dieu, je sais. Et en fait, aussi pourquoi Dieu est le seul Dieu, c'était dit dans un chant qu'on vient de chanter, c'est « Reçois l'offrande de ma vie, viens remplir le vase que je suis. » Parce que Dieu, quand on déverse, il est rempli. Et quand on déverse notre vie à Dieu, on est rempli à nouveau, et tout le temps rempli à nouveau, et tout le temps rempli à nouveau. Et j'en parlais avec mon grand-père en plus il y a 2 jours. Quand on a un verre rempli, qu'on verse en Dieu, on est tout le temps, on déborde, on déborde, on déborde. Mais quand on commence à donner dans quelque chose de vain, comme Dieu est le seul Dieu, les autres choses ne peuvent pas nous remplir. On commence à se vider. Et un verre qui se vide, qu'est-ce qui se passe? La poussière, la saleté, il y a d'autres choses qui rentrent en fait. Quand on déborde, vous imaginez l'image du verre qui déborde, il n'y a rien. Quelque chose qui veut le rentrer, il n'y a rien parce que ça sort, ça sort, ça sort. Mais quand on commence à baisser, à donner dans quelque chose d'autre, à ne pas être rempli, ça se vide et il y a de la saleté, l'eau elle commence à être pas top. Et notre vie avec Dieu, ça commence à être un peu pas top. On commence à être frustré. On commence à être « Mais pourquoi ça se passe pas comme je voulais ?» Mais on n'arrive plus à se ressourcer en Dieu parce qu'on prie pour voir arriver nanana. On lit la Bible pour que Dieu nous bénisse, pour qu'on soit heureux, ou pour que. Mais c'est plus une fin en soi. Aimer l'Éternel, c'est le début de notre vie chrétienne. C'est le milieu et c'est la fin. C'est pour ça que dans la parole que je viens de lire, il est dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux, tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur la porte de tes villes. » Moïse, là, il parle de la loi de Dieu, mais Jésus nous dit que la loi peut être résumée en un seul commandement. Aime l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, qui est un peu la même chose, mais ça, c'est un autre message. Mais, genre, en gros, aimer l'Éternel, on doit s'en souvenir. Ça doit être sur nos mains, entre nos yeux, partout où on voit, on doit se souvenir. Je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, je dois. Enfin, c'est, je vis pour mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence à être rempli à nouveau. Parce que, comme je disais, quand on commence à se vider, bah, la saleté, elle rentre. Et en fait, quand on vit pour autre chose, bah, il y a les déceptions qui commencent à venir, avec le verre vide, la saleté, les déceptions, l'amertume, la frustration. Et on se dit... on peut rester un bon chrétien, c'est-à-dire continuer à l'église, continuer à lire sa Bible, mais à l'intérieur, on est triste. À l'intérieur, on vit pas la passion pour Dieu, on regarde de loin les gens qui sont passionnés, on se dit, mais moi je suis pas comme ça. Et là, on commence à se dire, ouais, mais c'est un temps. Je suis dans un temps de désert et tout, C'est possible, parfois il y a des temps de désert, mais dans les temps de désert, il y a la manne de Dieu tous les jours. Là, il y a pas rien, pas grand chose qui se passe. Non, mais ça va revenir, c'est un temps. Avant, j'étais passionnée, ça va revenir et tout. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que notre idole, quelle qu'elle soit, notre but qu'on vit pour ça, il se réalise en fait. On est là, on attend que ça se réalise. Ouais, c'est un temps. Et en fait, on se dit, petit à petit, on commence à se dire, quand ça, cette chose, elle va arriver, là, ce sera le feu, là, machin, quand il y aura un réveil à l'école dimanche, quand le quartier sera évangélisé, là, le feu, il sera là, non. Mais j'attends, je vais persévérer, je vais jeûner, j'attends. Et on attend longtemps, et c'est de plus en plus vide, et j'ai la flemme de lire ma Bible, ça sert à rien ce que je fais, et ça me saoule de plus, j'arrive plus à prier, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à un moment j'arrivais plus à prier, parce que j'étais déçue, j'attendais une chose et ça venait pas, et vas-y j'arrive plus à prier, et voilà, et on reste comme ça, et ça peut durer une semaine, un mois, un an, 10 ans. Et on n'avance pas avec Dieu. Et en fait, la relation, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que notre relation avec Dieu, elle ne devient plus une fin en soi. Quand elle devient un moyen pour, même pour notre sanctification, même pour les meilleures raisons du monde, mais quand ça devient un moyen, c'est chaud. Et vous me direz, oui, mais ok, mais moi, j'ai essayé, mais j'arrive pas à aimer Dieu. C'est bien Acacia, mais moi je suis d'accord avec toi, mais j'arrive pas. J'essaye, mais un truc qui passe pas. Ça fait trop longtemps que je suis comme ça, je sais plus comment faire, je sais plus aimer Dieu. Sauf que l'amour pour Dieu, c'est pas un sentiment, c'est un commandement. Donc quelque part, il faut que... si Dieu nous donne un commandement, c'est que d'une manière ou d'une autre, on doit pouvoir. Et moi j'étais un peu, donc, il y a quelques mois, dans ce moment-là, parce que j'avais... vécu plein de choses avec Dieu, haut, bas, mille choses. Mais j'étais depuis quelques mois dans ce truc de... une distance qui s'est installée. Et je voyais des prédicatrices, des gens que j'admirais beaucoup, qui étaient vraiment à fond pour Dieu. J'ai dit, mais moi, je veux vivre ça. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Pourquoi ça marche pas? Et je voulais me lever tôt pour prier, j'arrivais pas. Enfin, il n'y avait rien qui passait. Et je priais à Dieu, je disais, Seigneur, fais quelque chose, parce que là, moi, j'arriverai pas... Et j'ai lu un témoignage d'une fille qui a mon âge à peu près, et qui n'est pas du tout connue, c'est une amie d'une amie. Elle a écrit son témoignage sur Internet, et ça m'a grave touchée parce qu'elle vit elle a vécu des choses dans sa vie qui ressemblent un peu à ma vie, et elle est vraiment passionnée pour Dieu, et elle racontait sa passion pour Dieu, comment parfois elle passe des nuits dans la prière, qu'elle cherche vraiment qu'elle cherche Dieu de tout son cœur, machin. Et ça m'a touchée. Et j'allais dormir, et il était minuit et demi, presque 1h du mat. Et je me suis dit, il y a un truc qui m'a touchée. J'ai dit, mais ça m'a rappelé avant, en fait. J'ai dit, ah, mais moi, j'étais comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, bon, bah, je prierai par rapport à ça. Puis je commence à m'endormir, j'ai dit, non, je vais prier maintenant. pourquoi, enfin, j'étais là, non, parce que je dois dormir, parce que je travaille demain, nanana. J'étais vraiment dans mon truc, ben, faut que je dorme, faut que machin. Enfin, j'étais dans ma routine, en fait. Et Dieu, il avait plus la place, quelque part. Et je lui donnais plus la place. Je lui donnais plus la place. Donc, Seigneur, je veux t'aimer, mais attends, je vais faire ça, 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 ça. Là, j'ai 10 minutes, si tu veux, tu peux me remplir. Ah bah, trop tard. C'est ça ou pas? Donc là, j'ai dit non, je vais... tant pis si je dors pas. Et je suis partie, j'étais dans la chambre de mon frère parce qu'il était pas là. Et c'est un endroit neutre pour moi, enfin je sais pas, je me suis dit bref, je vais là-bas. Et j'ai m'agenouille et je dis Seigneur, mais je sais pas, je suis... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux redevenir comme ça, je veux que tu sois premier dans ma vie, je veux que... Je sais pas, je veux que ça redevienne comme avant. Et j'ai vraiment reçu que Dieu me disait, enfin, le passage, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est dans Apocalypse, la lettre aux Éphésiens. Si vous voulez, on peut la prendre rapidement. Apocalypse 2, lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettre, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Et ça m'a bien parlé, parce que moi, c'est un peu ma vie de persévérant, de trouver les menteurs. De... Ah. Mais après, l'amour, c'est vrai que c'était un peu... Bah, ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai, en fait, ce que j'ai fait, c'est grave bête. Enfin, c'est bête. Mais c'est facile, en fait. J'étais à genoux. J'ai dit pardon.
J'ai dit pardon parce que t'as pas été mon Dieu comme t'aurais dû l'être, parce que t'avais pas toute la place dans ma vie, et j'ai attendu.
Et ça, on veut pas le faire, parce que c'est dur, parce que ça coûte, on veut pas... Et comme nous-mêmes, on souffre de cette distance avec Dieu, on veut pas dire pardon, parce qu'on dit, bah non, Dieu, il a qu'à venir et me parler, il a qu'à venir et me remplir. Et non, enfin... J'ai adoré autre chose que Dieu pendant un temps, et non, j'ai demandé pardon. Et j'ai attendu. Et Dieu m'a dit, tu vas jeûner 30 jours. J'ai dit d'accord. Et j'ai jeûné. Et là, Dieu, il m'a vraiment transformée. En fait, il m'a enlevé les choses, il m'a pointé du doigt les choses, la chose que je voulais, qui m'empêchait d'être que lui soit mon but, en fait. Et c'était des trucs bêtes, hein. C'est genre ma vie d'église, ma relation avec Adriel, enfin des trucs, mais... Enfin, j'étais pas... J'allais pas me convertir à l'islam, quoi. C'était vraiment des trucs qui, voilà, que... Des trucs de la vie. Et je vous donne un exemple. C'est pendant ce temps-là, à un moment, j'étais embrouillée avec Adriel. Et je disais à Dieu, mais Adriel, il m'aime pas et tout, voilà. Voilà, j'en suis, nanan. T'as tout, t'as fait n'importe quoi. Voilà, je disais pas comme ça, mais quand même, je pensais très fort. Voilà, merci Seigneur, bravo. Adriel, il m'aime pas, machin. Et moi, je m'attendais à ce que Dieu, il me dise, t'inquiète, tu vas s'arranger tout. Dieu, il me dit, ouais, mais moi, je t'aime. Putain, non, mais... Merci, mais... En vrai, j'étais limite, ça m'intéresse... Enfin, pas que ça m'intéresse pas, mais voilà. Dieu, mais moi, je t'aime. En fait, c'est que ça qu'il te faut. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et pendant 2 jours, Dieu me disait, ouais, mais moi, je t'aime. Et j'ai compris que, en fait, que ça se passe bien ou pas, travail ou pas, Adriel ou pas... Bah, c'est pas ma vie, en fait. Ma vie, c'est Dieu. Amen. Et c'est ça, la vérité. Et c'est ça que ça doit être pour nous tous. Et ça a été dur de lâcher ça, de lâcher toutes mes attentes, tous mes espoirs pour ma vie. Mais c'était vraiment salutaire pour moi. Et enfin, j'ai compris que l'amour pour Dieu, c'était pas un amour qui est là. Oui, j'aime Dieu comme j'aime mes parents, comme j'aime... quelqu'un d'autre, j'aime Dieu, c'est une base, et puis il y a tout le reste. Non, ça doit remplir nos cœurs, nos âmes, nos âmes, nos personnalités. L'amour pour Dieu, elle doit impacter nos personnalités, notre cœur, nos émotions. Notre amour pour Dieu doit changer, enfin, être vraiment ancré dans nos émotions, façonner nos émotions, nos pensées. Il y a des versions qui disent nos pensées, même si là, il n'y avait pas. Donc, comment, la façon dont on pense et notre force. J'aime particulièrement ça, notre force. Aime le Seigneur de toute ta force, parce que vous allez aimer le Seigneur avec nos actes. C'est pas un truc qui doit être là à l'intérieur de nous et c'est comme ça en fait, ça bouge pas, c'est passif, c'est un amour qui est actif. On doit aimer le Seigneur de toutes nos forces. Et donc, je voulais aussi partager donc, des personnes aussi dans la Bible qui ont aimé Jésus, qui me touchent vraiment beaucoup. C'est trois personnes. Je vais vous inviter à aller dans Marc 14. Et après, on va prier un peu. Marc 14, verset 3, jusqu'à 11. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des douze, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. C'est une de mes histoires préférées et préférées dans la Bible, parce que j'aime trop... En fait, cette femme, à un moment, elle s'en fichait. Elle a dit, moi, j'aime Jésus. Et parfois, quand on verse notre vie en Dieu, on a l'impression que ça sert à rien. J'ai l'impression que ça sert vraiment, vraiment à rien. Parce que, comme j'ai dit, si l'amour pour Dieu, ça doit être une fin en soi, mais après, il y a quoi? Parce que parfois, on aime Dieu pour autre chose. Mais si ça doit être notre objectif seul, ça implique quoi de vendre tout ce qu'on a, d'acheter un parfum pur et de... Enfin, elle, c'est ce qu'elle a fait, et de le verser sur lui, de verser nos vies en adoration sur Jésus, point barre. Et moi, ça me touche trop parce que... Elle l'a fait, et il y a d'autres versions qui disent qu'elle pleurait, qu'elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, enfin dans d'autres évangiles. Et les gens autour, ils étaient gênés. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Déjà, ce genre de fille, s'ils savaient c'était qui, enfin, ils ne se laisseraient pas toucher comme ça. En plus, ça ne sert à rien, on aurait pu donner de l'argent aux pauvres, et mille choses. Et je pense que si cette histoire, elle n'était pas dans la Bible, et que Jésus ne l'avait pas justifié en disant ça, peut-être que nous-mêmes on dirait, mais c'est n'importe quoi, ça sert vraiment à rien de faire ça et tout. Mais elle a aimé Jésus, elle a tout donné, et je pense que c'est l'amour que Dieu il attend de nous, de vraiment, on s'en fiche de ce qu'il y a, on s'en fiche de comment ça va sortir, parce que parfois on n'ose pas aimer Dieu, parce qu'on dit, ouais, mais si je commence, après ça peut aller loin, je ne sais pas où ça va m'amener, parce qu'on a des idées parfois dans la tête. Et on se dit, c'est trop si je fais ça. Mais Jésus, ça lui fait plaisir. Et c'est la seule qui, il dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Tous les disciples ne croyaient pas qu'il allait mourir. Hein. Elle, c'est la seule qui avait peut-être compris que Jésus allait mourir et qui a fait ça pour lui. Alors que tous les autres, ils n'y croyaient pas trop. Et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est pas ce qu'on croit qui sont les numéro 1, c'est pas ce qu'on croit qui ont tout compris. Et j'aime beaucoup. Et même la mention de Judas juste après, Judas, il a pris sa décision après ça. Judas, il a pris la décision de chercher à livrer Jésus après ça. Pourquoi après ça? Pourquoi, quand il a vu cette femme faire ça, il a dit « Ah bah vas-y, c'est mort, je vais livrer Jésus. » Moi, je pense que Judas, c'était un zélote. Ça veut dire que lui, il attendait le règne du Messie sur la terre, sur Israël. Ils voulaient que Jésus prenne les armes et vire tout le monde, les Romains, et qu'il fasse le royaume de Dieu sur terre. Et il devait être un peu fatigué. Au début, c'était cool, mais à un moment, il était là. Mais Jésus, on y va ou pas? Enfin, c'est quand tu vas mettre ton règne et tout ça? Et là, encore, je pense qu'il n'a peut-être pas dû comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Jésus, il a laissé ça faire. Surtout qu'en plus, Judas, dans Jean, s'est dit que c'est lui qui tenait la bourse et il volait de l'argent. Donc lui, ça l'aurait bien arrangé qu'on vende le parfum et que ça aille dans la bourse, pour lui personnellement. Mais Judas, il comprenait pas en fait l'amour pour Jésus. Il voulait le royaume sur terre, et peut-être qu'il voulait le livrer pour justement provoquer Jésus, pour que Jésus il soit obligé de faire quelque chose. Et je sais plus c'est dans quel évangile, mais après qu'il ait livré Jésus et qu'il s'est rendu compte que Jésus allait mourir et qu'il allait rien faire et qu'il avait livré un innocent, il a rendu l'argent, il s'est repenti, il a dit « Oh, j'aurais pas dû faire ça », il a rendu l'argent. Et ça, c'est ce que la loi juive elle demande quand il y a eu un méfait. Il s'est repenti, il a fait réparation. Mais pourquoi il s'est pendu? Enfin, il a fait ce qui était bien. Après, bon, sur le coup, il a fait quelque chose de pas bien, mais après, il a quand même changé d'avis, il s'est quand même rendu compte. Mais il n'avait pas d'amour. En fait, peut-être qu'il a versé son verre dans Jésus, c'est le Messie, et il va accomplir son règne. Et quand il s'est rendu compte que non, que son eau, elle était par terre, il s'est dit, j'ai pas d'avenir, j'ai plus rien. Et il a abandonné, en fait. Il a cru que la vie, c'était l'avenir, c'était son idée, et il a abandonné, alors que la vie, c'est Jésus, la vie, c'est les moments qu'on a maintenant, c'est les moments aujourd'hui. Si, parenthèse, mais si aujourd'hui, t'es là et tu te dis, j'ai pas d'avenir, j'ai rien, et tu penses à abandonner la vie, c'est pas l'avenir. La vie, c'est aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui compte. Peu importe tout ce qui s'est passé hier, peu importe tout ce qui s'est passé demain, t'as ni le contrôle sur ce qui s'est passé hier, ni sur demain. La vie, c'est aujourd'hui. Et c'est ça que Judas, il n'avait pas compris. Et Pierre, lui aussi, il a trahi Jésus. Il ne l'a pas livré, mais il l'a renié. Il a dit... il l'a renié, et lui, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas dit « Oh, j'ai rien fait », il est resté dans son coin. Mais Pierre, il aimait Jésus. Peut-être que c'était une base... Peut-être que son objectif, c'était d'être numéro un des disciples, et il a vite vu que c'était mort. Mais il aimait quand même Jésus. Et quand Jésus ressuscite et qu'il va voir Pierre, il lui dit pas « Oh, regarde ce que t'as fait, bah bravo, t'es grave le premier des disciples, je te l'avais dit et tout. » Il lui a dit, est-ce que vous savez ce qu'il lui a dit? « Pierre, m'aimes-tu ?» Il a demandé trois fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre, il a pas dit, « Oui, je t'aime plus que tout le monde. » Il a dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et c'est pour ça que je suis encore là, même si j'ai honte, même si je t'ai laissé, je t'ai renié, mais tu sais que je t'aime. Et il lui dit, « Paie mes brebis. » « Pierre, m'aimes-tu ? » Il lui demande trois fois. Pierre, il a renié trois fois, il lui demande trois fois, « Pierre, m'aimes-tu ? » Parce que Dieu, il est trop génial, enfin, non mais c'est vrai, il est trop, il veut juste savoir si Pierre il l'aime, et après il lui dit, alors paie mes agneaux. Il lui a pas dit, ah bah t'as résisté, c'est bien, t'as été le plus fort des disciples, maintenant tu vas être le chef de l'église, bravo Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Non, il savait que Pierre il allait le renier, mais il savait aussi que Pierre il l'aimait vraiment, et que maintenant Pierre, je pense qu'il a compris que le plus important c'était d'aimer Dieu. Et c'est sur cette question que je voudrais vous laisser, c'est « M'aimes-tu ? » Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme ? Est-ce que tu m'aimes ? C'est une base et ton objectif, c'est autre chose. Mais peu importe où vous vous trouvez ce matin par rapport à votre amour pour Dieu, c'est lui qui nous donne l'amour qu'on a besoin pour l'aimer, en fait. Il n'y a pas de... C'est pas le point final. Vous avez votre passé, vous avez votre avenir, mais surtout, vous avez votre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Et c'est sur ça que je voulais qu'on prie ensemble. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci parce que même quand on est infidèle, toi tu demeures fidèle au-delà de tout, Seigneur. Merci parce que même quand on t'entend plus, toi tu nous parles toujours et tu nous gardes Au-delà de toute notre volonté, je te remets chaque personne ici présente, que tu parles au cœur maintenant, Seigneur. Que tu pointes les domaines dans nos vies où on t'a écarté pour chercher autre chose. Chercher l'amour des hommes, chercher la sécurité, chercher la reconnaissance, chercher même l'évangélisation, chercher à œuvrer pour toi, mais où toi, tu n'étais plus le début et la fin de notre vie. Seigneur, montre à chacun là où il doit se repentir devant toi. Merci parce que quand on te demande pardon, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Tu nous accueilles, Seigneur, tu nous accueilles toujours. Je te prie que maintenant tu viennes toucher les cœurs qui se sentent rejetés, qui se sentent abandonnés. Viens par ton esprit nous remplir de ton amour. Viens nous dire comme tu m'as dit, mais moi je t'aime et ça suffit. Seigneur, je te prie, je te remets vraiment chacun que tu agisses cette semaine dans les cœurs. Viens nous remplir, Seigneur, de ton esprit. Viens briser les barrières qui nous empêchent de t'aimer librement, qui nous empêchent de venir devant tout le monde et verser notre parfum sur toi. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez l'amour de Dieu transformer vos vies, vos pensées, vos forces.